Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Bien, vous souffrez de l'asthme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les crises? Voilà, c'est depuis longtemps que vous souffrez de cette maladie. Les crises surviennent de temps à autre. Et que faut-il faire pour les prévenir? Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous êtes asthmatique? On en parle avec Dr Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il est en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur Jean-Marie Kayembe, dites-nous comment est-ce qu'on peut d'abord définir cette maladie, l'asthme?
Oui, on peut définir l'asthme comme étant une maladie inflammatoire des voies respiratoires. Cela voulant dire que les voies respiratoires sont comme brûlées et de cette manière, elles deviennent hypersensibles aux substances nocives de l'environnement. Et comment cette hypersensibilité, elle va se traduire par une contraction très rapide et violente de la bronche, prive ainsi le malade de l'oxygène et de l'air. C'est la raison pour laquelle cette maladie se traduit par la difficulté de respirer, qu'en médecine nous appelons la dyspnée. Mais l'asthme peut également se manifester du fait de cette inflammation dont j'ai parlé, une inflammation des voies respiratoires,
oui,
par la toux qui dure dans le temps. Voilà en gros la définition de ce qui est plus un syndrome que finalement une simple maladie.
Voilà, vous parlez de l'asthme comme des brûlures au niveau des voies respiratoires. Et qu'est-ce qui cause généralement ces brûlures?
Mais ne me prenez pas sur le mot brûlure. J'ai utilisé le terme brûlure pour montrer qu'il y a une inflammation.
Oui.
Donc, quand on est brûlé, on a une inflammation. C'est un peu ça l'analogie.
Oui.
Mais à l'origine de la chose, de l'asthme, il y a avant tout la génétique. La génétique, c'est ce qui fait que vous et moi, je ne vous ai pas vu, nous soyons noirs. Ou alors blancs ou jaunes, etc.
Oui.
C'est la génétique qui fait que je suis de taille moyenne, croyez-moi, que vous soyez de plus grande taille que moi, je ne vous ai pas vu, j'insiste encore. Corps, ou de petite taille, de cheveux gris, etc. Ça, c'est la génétique. Facteur sur lequel, hélas, nous avons jusqu'aujourd'hui, dans la médecine moderne, très peu d'action. Mais à côté de la génétique qui prédispose, nous avons l'environnement. Les facteurs d'environnement sont ceux qui vont favoriser tout à fait de manière évidente l'expression de la maladie. Je voudrais étayer mon propos en disant, les facteurs de l'environnement sont notamment l'exposition à des allergènes. Les allergènes sont des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'organisme d'un individu,
oui,
vont provoquer une réaction allergique qui, elle aussi, passe par, encore une fois, l'inflammation. Mais vous avez aussi les polluants de l'atmosphère. Prenons aujourd'hui nos rues en plein chantier comme le boulevard Alimété,
oui,
vous avez des petites particules dans l'air qui, lorsque ces particules de poussière, etc., atteignent des voies respiratoires, elles vont provoquer la même réaction d'inflammation. L'environnement est donc le facteur qui prédispose ou qui déclenche ou qui déstabilise l'asthme. Je voudrais me répéter pour dire qu'il y a avant tout la prédisposition génétique,
oui,
c'est vrai, mais en plus de la génétique, il y a des facteurs sur lesquels nous pouvons agir, ce sont les facteurs de l'environnement.
Voilà, l'environnement peut être à la base de cela. Et est-ce que les gens qui sont exposés tout le temps à respirer des mauvaises odeurs parce qu'il y a trop d'insalubrité tout autour dans certains marchés à travers la ville, est-ce que ces gens aussi sont exposés?
Oui, les mauvaises odeurs sont dues à quoi? C'est généralement la putréfaction de substances, une chimique.
Oui.
Qui dit réaction chimique dit libération des particules sous forme gazeuse ou sous forme vapeur, qui elles aussi, du fait de leur nature, pas toutes bien sûr, peuvent tout à fait induire une inflammation de voie respiratoire. Il faut donc se dire que ceux qui sont au contact de la pollution environnementale de manière continue, peuvent, du fait de la nature chimique des substances auxquelles ils sont exposés, sous forme gazeuse ou sous forme particulière, peuvent être également des sujets enclins à l'exacerbation ou à la déstabilisation de la maladie asthmatique.
Vous avez des questions de réaction, appelez-nous déjà au 081-800-963-94. Nous recevons le docteur Jean-Marie Kayembe, pneumologue. Avec lui, nous parlons de l'asthme. Qu'est-ce qui est possible pour prévenir les crises, pour bien vivre avec cette maladie? Alors, docteur Jean-Marie Kayembe, alors quelle est l'hygiène de vie qu'il faut adopter pour éviter d'être exposé à cette maladie?
Cette question me paraît venir non d'un néophyte, mais de quelqu'un habitué à la pratique médicale, ou tout au moins à l'interrogation du monde médical. Je voudrais dire simplement, les moyens de prévenir la crise d'asthme, c'est d'agir sur les facteurs sur lesquels nous avons un certain pouvoir. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les recommandations pour la prise en charge de l'asthme insistent beaucoup plus sur la notion du contrôle de l'asthme. Qui dit contrôle de l'asthme voudrait dire que le malade soit à même de vivre le plus longtemps possible avec le moins de crises possible. Ici, je retrouve la tolérance zéro pour dire que le moins de crises possible peut vouloir dire pas de crise du tout pendant une longue période. Comment y arriver? Il faut éviter notamment l'exposition à la pollution. Je voudrais donc dire en termes clairs que le malade asthmatique qui se fait notamment très très déstabilisé ou en déséquilibre devrait éviter, par exemple, de prendre chez nous à Kinshasa, prenons un exemple concret, le boulevard de l'Imépé aux heures de pointe, aux heures où on est en train de concasser la caillasse, etc., de manière importante. Un sujet asthmatique devrait éviter aussi le moment de grand trafic. Vous savez pourquoi? Toutes nos autos sont aujourd'hui des autos de seconde, si pas de dixième main. Elles dégagent du CO2 en concurrence déloyale, laissez-moi le dire en ce terme, éviter le moment de grands afflux. Éviter également des périodes, des états empoussiérés ou simplement, et plus près de nous, les locaux dans lesquels des fumeurs s'entassent pour dégager la fumée du tabac, qui est reconnue comme étant l'ennemi numéro un des maladies du système respiratoire. Il faut donc éviter une exposition à tous ces aéropolluants de l'environnement, à toutes ces substances nocives. Mais je dois reconnaître ici la part de l'asthme asthmatique. Certaines personnes se savent allergiques, par exemple au pollen des arbres, ou tout simplement au fanère des animaux. Lorsque vous êtes allergique au fanère des animaux, évitez d'avoir des bêtes domestiques, notamment les chiens, les chats, ou les déjections d'oiseaux comme les poules, etc. Parce que vous savez, allergique à toutes ces choses. Donc, quand on se fait allergique, on évite également les substances auxquelles on peut l'être. Et un moyen plus simple, je crois que c'est plus une émission d'éducation. L'asthmatique devrait vivre presque dans une cellule de moine. C'est éviter, par exemple, des maisons avec de très grands tapis ou des petits tapis sur lesquels on essuie régulièrement les pieds. La raison en est simple, c'est parce que dans la poussière de maison se cachent généralement des petites substances que nous nous appelons les acariens. Et ces acariens sont, dans toutes les études à travers le monde, reconnus comme la substance allergisante la plus importante à laquelle les sujets asthmatiques sont exposés. Donc éviter le tapis plein, éviter la poussière domestique, etc. Voilà un petit peu le mode de vie de l'asthmatique en ce qui concerne le contrôle de son environnement.
Et par exemple, parlons de la climatisation, par exemple les climatiseurs à la maison, est-ce que ça peut provoquer, déclencher une crise?
Oui, je dois l'avouer parce que ce soit le très grand froid ou les très grandes chaleurs, elles modifient les conditions hygrométriques. Hygrométrique voulant dire le degré d'humidification de l'air et par conséquent le degré d'humidification au niveau de la bronche de l'asthmatique. La climatisation est déjà aussi un nid à poussière. Soyons francs, combien de personnes pensent à épousseter régulièrement? J'entends par là pratiquement tous les jours leur climatisation. La climatisation retient également des poussières. Et toutes ces poussières, et déjà le froid en lui-même, peuvent être une substance qui agresse la bronche de l'asthmatique.
Oui.
L'asthmatique peut-il s'exposer au froid? Mais tous les asthmatiques ne sont pas tous sensibles de la même manière à ces substances de nature physique différentes, le froid ou la chaleur. Mais l'asthmatique doit pouvoir se connaître. C'est lui qui, au moment de la saison sèche chez nous ici, fait beaucoup plus de crises d'asthme, peut le faire d'abord à cause de la température qui diminue en saison sèche, mais également et surtout parce que pendant cette période, il y a un peu plus de type d'allergie particulière liée à la saison. Donc voilà au moins des facteurs qui peuvent tout simplement, lorsqu'ils sont maîtrisés, permettre à l'asthmatique d'éviter certaines crises.
Radio Capi vous informe 24h/24. En ligne à la Swahili, Kiluba, Kikongwe, français, retrouvez la session du soir à partir de 16h lors de Kinshasa. Des paroles d'enfants, des chroniques, des informations sur la circulation routière, du sport, de l'économie. Faites le plein de news dans Okapi Soir. De lundi à vendredi à partir de 16h lors de Kinshasa. Faites le plein d'informations dans Okapi Soir.
Vous souffrez de l'asthme et qu'il faut-il faire pour prévenir les crises? Nous vous en parlons avec Dr Jean-Marie Kayembe, pneumologue. Docteur, vous êtes suivi à travers le pays, même en dehors de nos frontières. Et quelques auditeurs appellent déjà pour poser des questions. Nous avons en ligne Maurice Manianga de Kinshasa et Gabriel Gondélé de Isiro. Maurice, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kinshasa, quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour aussi d'abord au professeur docteur qui est au plateau là.
Oui.
Et j'ai mes préoccupations qui sont quatre.
Oui.
Qui sont les suivantes, dont la première est, et je voulais savoir quelle conduite à tenir en cas d'une femme asthmatique enceinte présentant d'autres affections telles que par exemple l'hypertension artérielle. Et la deuxième question est la suivante. Quelles sont les complications de la non-prise en charge d'une femme asthmatique qui a divorcé avec son mari, ça fait maintenant peut-être 18 ans? Mmh. Et la troisième question est la suivante. Quelles sont les causes primordiales de l'asthme? Et la dernière question est, l'asthme attaque principalement quel organe du système respiratoire?
Bien, merci beaucoup. Docteur Jean-Marie.
Oui, nous espérons ne pas éluder certaines de ces questions. Je crois que la première concerne la femme enceinte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsqu'elle est asthmatique
et hypertendue.
Je voudrais dire à notre interlocuteur que les maladies de l'asthme ne sont pas les médicaments de l'asthme ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte. Je parle ici des médicaments d'abord qui notamment assurent le soulagement de la crise d'asthme que nous appelons le bêta 2 mimétique. La ventoline appartient à cette famille. La femme enceinte peut tout à fait, lorsqu'elle est en crise, bénéficier d'un traitement par la ventoline sans qu'il y ait répercussions négatives soit sur elle, soit sur l'enfant et encore moins sur sa pression artérielle. Par contre, le volet de la prise en charge de l'asthme, il y a un volet qui est plutôt un volet de contrôle au long cours et les médicaments de la crise. Les médicaments de contrôle sont essentiellement les corticoïdes par la voie inhalée. Là aussi, les corticoïdes par la voie inhalée, mais par la voie nasale donc, ne sont pas absorbés au niveau systémique ou très faiblement. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de craintes à se faire, parce que les effets systémiques secondaires des corticoïdes sont évités par le fait que, ici, les corticoïdes sont utilisés par la voie locale et l'absorption est faible. Donc, vraiment, la femme enceinte ne constitue pas un sujet à part eu égard au contrôle de l'asthme, qui est assuré sur le plan pharmacologique essentiellement par les corticoïdes administrés par la voie inhalée. C'est la première préoccupation.
Voilà, la deuxième, il parle de quelles sont les complications qu'une femme enceinte asthmatique peut et divorcée peut avoir.
Je ne sais pas pourquoi il parle de divorce s'agissant de la femme enceinte.
Moi non plus.
Ça n'a jamais été repris sur la liste des motifs, l'Église nous le confirmera, des motifs potentiels de divorce. Moi je pense que la femme asthmatique a le droit au mariage, à l'accouchement, etc., comme toute autre femme. Mais tout simplement, l'accouchement peut être à cause du stress qu'elle apporte. Imaginez un premier accouchement, une primigeste, elle ne sait pas où elle va, ni ce qui l'attend. La période de stress est toujours une période intrinsèque qui peut déstabiliser la maladie asthmatique, comme d'ailleurs d'autres maladies chroniques, comme le diabète et même l'hypertension artérielle. On sait le lien qu'il y a entre le stress et l'hypertension. Il faut donc penser que les mêmes médicaments qui contrôlent l'asthme peuvent contrôler l'asthmatique lorsqu'elle est mariée ou divorcée. Il n'y a aucune raison à ce point de vue-là de penser qu'il y a des situations différentes.
Oui. Alors, avant de continuer à répondre à ces deux autres questions, nous allons recueillir celle de Daniel Decalemi. Bonjour, Daniel.
Bonjour, je suis de Polésie, pas de Panémie.
Ah, excusez-nous, de Polésie. On vous écoute, Daniel.
Ok, d'accord. Oui, je voudrais m'adresser au docteur Jean-Marie. C'est une préoccupation qui me concerne personnellement.
Oui.
C'est que j'ai une difficulté à respirer, surtout quand je me retrouve dans une zone où il y a beaucoup d'humidité. Ça, c'est un. Et même en dehors, parfois, je me sens un peu étouffé, comme si j'étais enrhumé. Je respire très difficilement. Je pense que peut-être même au téléphone, là, vous le sentez. La respiration est un peu difficile. Et je voudrais aussi poser une autre question, parce que je suis un peu à tendance hypertendu. Est-ce que le gonflement du cœur peut aussi étouffer ou comprimer le poumon pour que je respire difficilement? C'est un peu ça la question, peut-être qu'il y en aura d'autres.
Voilà, docteur Jean-Marie.
Ok, cela ressemble un petit peu à une téléconsultation, mais nous devons, quoi qu'il en soit, assurer l'éducation de la population, raison pour laquelle je me livre à l'exercice avec beaucoup de courage et surtout d'assurance.
Oui.
Je voudrais dire à notre ami qu'effectivement, respirer difficilement en médecine, nous appelons cela de la dyspnée. Et la dyspnée n'est pas que causée par l'asthme. La dyspnée peut également être causée par les maladies du cœur, notamment l'hypertension dont il parle. Quand elle est incontrôlée, une des conséquences, c'est la décompensation du cœur, qui signifie rien d'autre, l'augmentation du volume du cœur et la perte de sa force de contraction. Donc on peut mal respirer lorsqu'on est hypertendu, incontrôlé, lorsque l'hypertension a atteint le stade d'une décompensation cardiaque ou d'une cardiopathie hypertensive, cela est vrai. Mais lorsque je prends en gros son histoire qu'il raconte si bien, et lorsque je me réfère à sa voix un petit peu nasonnée en ce moment,
oui,
je dois dire que c'est un malade qui a sûrement une hyper-réactivité, donc une réaction exagérée au niveau nasal, mais probablement également au niveau de ses bronches. Mon seul conseil est de recourir auprès de personnels soignants, parce qu'il y en a également en Polynésie, pour essayer de décrypter ensemble qu'est-ce qui peut être à l'origine de sa déstabilisation au plan respiratoire. À distance, je pense qu'il y a probablement une composante inflammatoire, donc une composante asthmatique.
Mmh.
Une façon d'y arriver, c'est de lui demander s'il n'y a pas par hasard dans la famille, parmi les oncles, les grands-parents, les parents, les collatéraux, d'autres asthmatiques. Nous avons parlé génétique. La génétique peut se traduire notamment par le fait que dans une famille, pas seulement une personne, mais plus d'une, est quand même frappée par la même affection, parce que on porte quand même un même background génétique lorsqu'on appartient à une même famille. Et un cas comme celui-là, voilà un cas dans lequel, lorsqu'on s'assure qu'il s'agit de l'asthme, le contrôle par les corticoïdes inhalés, j'insiste, et pas les corticoïdes systémiques, peut certainement apporter une amélioration de sa situation.
Donc vous demandez à Daniel d'aller consulter un médecin.
Je crois que c'est la chose la meilleure à faire.
Oui.
Je ne lui demanderai pas de payer un billet d'avion et nous rejoindre à Kinshasa.
Ah,
nous avons formé quelques disciples disséminés à travers la République, et comme Jésus, on leur a dit, aller dispenser partout la bonne nouvelle, c'est-à-dire parler à tout le monde des symptômes de l'asthme et parler surtout à tout le monde en cette année du poumon de comment prévenir les maladies du système respiratoire.
Alors, il a posé également la question de savoir est-ce que le gonflement du cœur peut comprimer les voies respiratoires?
C'est la raison pour laquelle je lui ai dit tout à l'heure,
oui,
que le cœur, lorsque l'hypertendu est en état de décompensation, le cœur gonfle.
Voilà.
Et en gonflant, il perd sa capacité à envoyer le sang et l'oxygène dans toutes les cellules de l'organisme. Oui, la décompensation cardiaque est une cause de dyspnée, de difficultés respiratoires.
Voilà.
Mais là, il n'y a pas simplement le gonflement.
Oui.
Il y a aussi l'œdème. C'est un problème de pression qui change, mais nous entrons dans des considérations physiopathologiques qui vont certainement ennuyer les auditeurs. Mais sachez qu'il y a là une augmentation de pression à l'intérieur, un œdème des parois, un œdème du poumon, du tissu pulmonaire, conséquence de la décompensation cardiaque qui explique la dyspnée qui peut arriver. Il était souvent en médecine. J'allerai bien sûr plus longuement là-dessus pour expliquer la physiopathologie de la dyspnée dans la décompensation cardiaque.
La soirée de la formation sportive sur Radio Capital. Nanambala, au démarrage, passe le relais à deux de l'Ekabé en Galula, qui fonce vers le micro et le passe à Kalismo Kongo Chambouille. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Moulumbala attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire! au 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches à partir de 15h lors de Kinshasa.
Voilà, nous parlons de l'asthme avec Dr Jean-Marie Kayembe, pneumologue. Jérémy nous appelle depuis la ville de Bandundu et Joël Bongol à Kinshasa. Jerry, bonjour. Jérémy Mido, bonjour.
Oui, bonjour, je vous suis.
Quelle est votre question?
Bonjour, bonjour, je vous suis.
Oui, quelle est votre question, Jerry?
Bon, j'ai des préoccupations à poser à l'invité.
Oui.
Bon, l'invité fait référence à la différence entre l'emphysème pulmonaire et l'asthme bronchique. Ça, c'est la première question.
La différence entre...
Les deuxièmes...
Vous dites la différence...
La deuxième question... Qui peut faire l'étiologie de l'asthme?
La deuxième question, s'il peut faire l'étiologie de l'asthme, et la première?
La première différence entre l'emphysème pulmonaire et l'asthme bronchique.
Ben, c'est des termes tellement techniques. Voilà, docteur Jean-Marie Kayembe.
Oui, l'emphysème pulmonaire est une maladie qui intéresse avant tout le parenchyme, le tissu du poumon, qui fait qu'il y a des lésions dégénératives de ce parenchyme pulmonaire qui détruit, perd simplement sa capacité élastique. Et de cette manière, le poumon, qui est l'organe par excellence de la ventilation, ne sait plus se contracter, ne sait plus envoyer facilement l'oxygène à d'autres tissus de l'organisme qui en ont besoin. Donc l'emphysème est une maladie liée à la destruction du tissu élastique pulmonaire,
oui,
par des substances qui sont des enzymes qui détruisent, donc des antiprotéases. Ceci est également dû au fait de la génétique, bien sûr, mais aussi à l'exposition à des substances nuisantes comme la fumée du tabac. Voilà l'emphysème pulmonaire.
Voilà.
Par contre, l'asthme,
oui,
est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires dans laquelle on n'a pas forcément de destruction du tissu pulmonaire, mais on a plutôt une hypertrophie du muscle lisse des bronches. On dirait,
voilà,
donc en plus simple, l'asthme intéresse les bronches, même si les conséquences sont lointaines et multisystémiques,
oui,
tandis que l'emphysème concerne de manière préférentielle le tissu pulmonaire, le parenchyme pulmonaire. Voilà pour la distinction entre les deux entités pathologiques.
Voilà. Joël Bongol nous appelle de Kinshasa et Jean-Claude du Siro. Voilà, il a posé aussi, l'Algérie a posé la question de savoir l'étiologie. Si vous pouvez...
Oui, parler de l'étiologie,
de l'asthme,
je serais plus à l'aise en parlant des étiologies. Mais dans l'asthme, on parle beaucoup plus des facteurs favorisants. Et parmi les facteurs qui favorisent l'asthme, nous avons notamment les allergènes, comme nous avons dit.
Oui.
L'exposition industrielle sont à des particules nocives, etc. Ce sont des substances qui favorisent l'installation de l'asthme. On peut considérer la génétique, nous l'avons dit, comme étant un facteur prédisposant. La,
oui,
génétique prédispose et l'hérédité favorise.
Voilà, Joël Bongol.
Mais je voudrais bien lui dire,
oui,
dans l'asthme, parmi les facteurs facilitateurs de l'expression de l'asthme, il y a aussi les comorbidités. Ça voudrait dire les maladies qui accompagnent l'asthme en le déstabilisant, parmi lesquelles l'obésité, donc le fait d'avoir trop de kilos, mais également le reflux gastro-œsophagien ou les personnes qui ont une suffocation nocturne due à ce que nous appelons le syndrome d'apnée du sommeil. Voilà un petit peu, en gros, quelques facteurs favorisants plutôt que des facteurs étiologiques de l'asthme.
Voilà, Joël Bongol à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama.
On vous écoute.
Oui, ici à Kinshasa, on laisse dormir le bébé à côté des ventilateurs pendant une durée un peu longue. À quel risque on expose ses enfants? Et la deuxième question, pour les femmes qui se mettre à nettoyer les graines de maïs avant d'aller au moulin, on le fait souvent avec un bébé au dos. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? S'il y a des risques, quel conseil donner à ces femmes-là?
Merci. Justin Massosa, depuis Siro, bonjour. Voilà, Justin n'est plus en ligne. Voilà, docteur Jean-Marie, vous avez la parole.
Oui, je félicite notre ami qui, en cette année du poumon, pense aux plus oubliés, c'est-à-dire aux petits enfants, qui n'ont pratiquement pas de défense. voilà un défenseur de la jeunesse que je félicite. Je dois dire que laisser un enfant au contact du ventilateur, nous savons tous que le ventilateur, bien sûr, il envoie un courant d'air frais, mais en par conséquent, il soulève également toutes les poussières, surtout lorsque le balai est passé depuis plus d'un mois ou une semaine sous le paillasson ou sous le lit. Donc on l'expose à encore plus d'acariens, de dermatophagoïdes ou d'autres aéropolluants de l'atmosphère, c'est une mauvaise chose. Aller nettoyer ces grains de maïs, si l'on peut se séparer de sa progéniture, son enfant, uniquement pendant les minutes où l'on va au moulin, je crois qu'on lui fait du bien. Parce que dans les grains de maïs, et la farine, etc., il y a aussi des acariens particuliers. La science rébarbative les appelle le, farinae. Donc, nous avons des acariens de type poussière, des acariens qui sont dans la farine, qui peuvent favoriser tout à fait l'inflammation bronchique à l'origine ou à la déstabilisation de l'asthme. C'est une mauvaise chose que d'exposer un enfant à des nuisances atmosphériques parce que l'enfant est de cette manière exposé et cultive de manière plus longue encore l'inflammation qui va se traduire par des maladies de voies respiratoires telles que l'asthme ou la bronchite chronique.
Voilà, pour terminer, docteur Jean-Marie, en KMB, on va récapituler rapidement. Donc, pour éviter des crises, il faut avoir une hygiène de vie, adopter une certaine hygiène de vie, notamment, il faut éviter les grands afflux, là où il y a beaucoup d'embouteillages parce que les véhicules dégagent le CO2. Vous avez dit qu'il faut éviter les locaux où il y a beaucoup de fumeurs, éviter les aéropolluants. Vous avez donné l'exemple de l'avenue Lumumba où il y a beaucoup de poussière, et éviter aussi les maisons avec les tapis qui gardent beaucoup de poussière. Voilà, je crois qu'on a résumé ce que vous avez dit.
Je dois ajouter quelque chose de très important qui ne doit pas nous échapper, c'est le volet pharmacologique de la prévention de l'asthme. Certains asthmatiques qui sont catégorisés selon la sévérité sont des candidats à un traitement de fond, qui n'est pas le traitement de la crise. Je crois avoir parlé de corticoïdes par la voie inhalée, et j'insiste pour dire que l'évidence, la médecine basée sur l'évidence, prouve que ces corticoïdes, au long cours, on ne les prend pas en un jour ou deux, ça peut durer des mois, chez certaines personnes arrivent à assurer, avec les mesures d'environnement, un contrôle tout à fait satisfaisant de la maladie asthmatique.
Docteur Jean-Marie Kayembe, pneumologue, je vous remercie.
Je remercie également la radio Cathy pour cette occasion, mais offerte à l'occasion de l'année du poumon, et à plus.